Midi au mitard, l'émission qui donne de la voix pour que la prison ne soit plus une zone passée sous silence. Tous les premiers dimanches du mois, à partir de midi, sur Prune 92 FM et en podcast sur le www.prune.net. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes déjà le premier dimanche du mois et c'est enfin l'heure de Midi au mitard, l'émission qui parle prison sur les ondes de Prune 92 FM. Au menu aujourd'hui, un sujet souvent occulté mais ô combien important pour celles et ceux qui vivent incarcérés, on va parler sexualité en détention. Pour mieux cerner la problématique, en quelques mots. Si aucun texte n'interdit expressément les relations sexuelles en prison, le fait d'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur constitue une faute disciplinaire permettant de fait de sanctionner la sexualité au parloir. Seules les visites en UVF, donc unité de vie familiale et parloirs familiaux, à l'abri du regard d'autrui, autorisent les rapports sexuels entre les détenus et leurs visiteurs. Mais encore faut-il que chaque prison en soit dotée, car selon une infographie de l'OIP, fin 2018, seuls 51 établissements sur 185 disposaient d'un tel espace. Pourtant partie intégrante du droit à la vie privée et protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à la sexualité est loin d'être respecté dans les prisons françaises. Avec nous, pour en parler, Clémentine nous fait une joie d'être parmi nous en plateau. Salut Clem.
Salut.
Qu'est-ce que tu nous as prévu pour aujourd'hui ?
Bah du coup, moi je vais vous parler d'un livre dans la chronique Culture Tôle qui s'appelle La guillotine du sexe, donc misère sexuelle dans les prisons, donc de Jacques Lesage de la Haye.
Arrivée de Paris, Manon, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui ?
Salut. Aujourd'hui, on va parler sociologie avec une chronique autour du livre La sexualité en prison de femmes, écrit par Myriam Joël il y a quelques années.
Et de ton côté, Mathieu, tu vas nous parler d'un documentaire.
Oui. Ce mois-ci, je vais vous parler d'un documentaire qui s'appelle À côté et qui a été réalisé par Stéphane Mercurio en 2008.
Et avec Adèle, nous sommes allés parler sexualité et détention avec les Nantaises et les Nantais.
Oui, aujourd'hui, on retourne dans les rues de Nantes pour parler sexualité en prison.
Et pour finir avec Ariane, nous aborderons le thème de la construction du genre et de la sexualité en détention. Mais tout de suite, c'est l'heure de la chronique Culture Tôle de Clémentine.
Eh bien, du coup, rebonjour tout le monde. Heureuse d'être en studio à Nantes avec l'équipe pour cette émission sur la sexualité en prison. Du coup, cette chronique Culture Tôle, elle parle du livre de Jacques Lesage de la Haye qui est paru en 1978 et qui s'appelle La guillotine du sexe, misère sexuelle dans les prisons. Ce bouquin, il parle des effets psychologiques d'une sexualité empêchée, diminuée en prison. Et moi, je vais surtout essayer de vous parler du contexte du bouquin et en gros de ce qu'il raconte et de la vision que porte son auteur, Jacques Lesage de la Haye. Alors, c'est sûrement très méconnu, mais on peut tous l'imaginer, à l'échelle de n'importe quel individu, être enfermé en tôle a des impacts sur tout le corps humain, tout autant que sur la santé mentale. Et à l'échelle du corps social, être incarcéré, c'est être privé des liens habituels qu'on a avec le reste de la société, des liens avec nos proches et avec tous les autres êtres, en fait, et en particulier des liens sous forme de rapports sexuels. En fait, la sexualité est au carrefour de prison provoque, mais est aussi assez symbolique sur le caractère destructeur que cette privation entraîne chez les personnes qui passent par la tôle. Donc, c'est l'objet de cet essai, La guillotine du sexe. Pour vous donner un extrait qui résume bien le propos, son auteur indique dans le livre que la frustration sexuelle n'est pas la privation de liberté. C'est la castration pure et simple de l'être humain. Donc, pour vous donner un peu de contexte autour de la parution du livre, l'auteur, donc, c'est Jacques Lesage de la Haye, qui a été lui-même détenu à la maison centrale de Caen. Il est incarcéré dès 19 ans et c'est un détenu assez atypique puisque plutôt issu de la bourgeoisie et puis fait rare pour les détenus encore aujourd'hui, il arrive à reprendre ses études au sein de la prison, notamment des études en psychologie. La prison, il y passe 11 ans et demi entre 1957 et 1968 et il réalise une soixantaine d'entretiens avec les personnes détenues autour de leur sexualité. Et ces entretiens vont lui servir à écrire en fait la guillotine du sexe qui était supposée à la base être sa thèse. La thèse, elle ne sortira jamais en tant que telle, mais par contre, son bouquin, il sort en 1978 sous forme d'essai. Et cette parution, à ce moment, n'arrive certainement pas par hasard. Si on est au début de la libération sexuelle promise par mai 68, les années 70, c'est aussi l'époque des révoltes dans les prisons en France, des émeutes qui essaiment d'une prison à une autre et auxquelles même l'État est obligé de répondre en tentant d'humaniser, c'est un grand mot, désolé, les conditions de vie des personnes enfermées. Pour l'État, d'ailleurs, il ne s'agit alors en aucun cas de remettre en question la prison, mais bien juste de rendre plus acceptable et plus adaptée à certains droits fondamentaux l'institution carcérale, donc en fait, faire taire les détenus, quoi. Typiquement, à la même époque, Valéry Giscard d'Estaing, premier président à entrer dans une prison et à serrer la main d'une personne incarcérée, personnes très choisies et très sélectionnées, bien sûr, indiquait dans une formule restée célèbre que la prison consistait seulement en une privation d'aller et venir et rien d'autre. Comme si la prison n'avait pas un impact majeur sur les corps et esprits qu'elle enferme. À l'inverse de cette vision éloignée de la réalité de VGE sur la sexualité, Jacques Lesage de La Haye parle de sa propre expérience dans un entretien qu'il a donné récemment avec sa femme. « J'ai été éminemment détruit par mes 11 ans et demi de tôle. Parmi les causes de ma destruction, un des facteurs prévalents a été la frustration affective et sexuelle. Ayant fait mes études en tôle, bac, licence, S, lettres, mention psychologie, j'ai choisi comme sujet de thèse de doctorat la frustration affective et sexuelle du détenu. Je ne l'ai jamais soutenue, j'ai tellement travaillé, milité et vécu que j'ai plutôt... Et là, sa femme, elle le coupe, Nicole, et elle dit « et baiser ». Et baiser aussi. Jacques, oui, mais pour rattraper 11 ans et demi de frustration, il faut baiser pendant 50 ans. Même ainsi, cela n'a rien réparé, il y a toujours un manque définitif. Donc voilà pour un extrait de cet entretien que je trouvais plutôt marrant à vous retranscrire. Et avec le recul aujourd'hui, en fait, certains commentateurs lisent le livre de Jacques Lesage de La Haye comme un livre qui porte un discours adapté à l'époque et à ses mœurs et qui condamnerait à la marge du livre l'homosexualité en prison. Mais en réalité, et selon moi, en fait, c'est plutôt un bouquin qui témoigne et dénonce du caractère intolérable de priver des femmes et des hommes de toute possibilité de relations sexuelles, ou du moins qui dénonce en fait l'ersatz de sexualité pour beaucoup de personnes enfermées que peut constituer l'homosexualité ou des unités de vie familiale, par exemple. En tout cas, ce bouquin et son auteur ont eu le mérite de briser un tabou et certainement d'accélérer les politiques pénitentiaires autour de création des unités de vie familiale, les premiers rapports annonçant leur création arrivant dans les années 1980. Ce n'est pourtant pas ce que Jacques souhaite, l'amélioration des conditions de vie en prison. Lui, ce qu'il réclame, c'est bien leur abolition. Donc en témoigne un extrait de son dernier livre, « La prison résume fidèlement toutes les putridités du système pénal contemporain. Quand on entre en prison, on sent craquer sous ses pieds quelque chose comme les dalles froides d'une morgue. On sent vite grouiller alentour les verres. Loin de parvenir à faire jaillir le pus de la conscience, la prison substitue la désolation du charnier à l'éloquence de la prévention-réinsertion et s'inspirant du choléra, son maître, elle transforme des hommes en pestiférés jetés dans une boue d'immondices. » Donc ce Jacques, il existe toujours, il est écouté sur Radio Libertaire, il anime depuis quelque temps déjà l'émission Ras les murs, diffusée chaque mercredi entre 20h30 et 22h30 sur la chaîne, le principe étant déjà depuis 1989 que les anards parlent aux taulards. Et puis, si ça ne suffit pas de l'écouter, il faut le lire aussi pour ses bouquins sur la tôle et sur son abolition.
Merci beaucoup Clémentine pour cette chronique Culture Tôle que vous aurez l'occasion de réécouter en podcast sur notre page Facebook Midi au Mitard ou sur le www.prune.net. Et tout de suite, comme dans chaque épisode de Midi au Mitard, nous avons pris l'habitude d'aller interroger les passants pour les soumettre au jeu du micro-trottoir. Première question, est-ce que vous pensez qu'il y a un accès à la sexualité en prison en France ?
Je pense pas vraiment qu'il y ait d'accès. Et s'il y en a un, je pense que ça doit être assez compliqué. J'ai pas vraiment d'idée sur le sujet.
Pourquoi tu penses qu'il y a peu d'accès à la sexualité ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
Je pense que c'est un milieu qui est compliqué où, on doit pas trop montrer de faiblesse. Et c'est un milieu où il y a aussi certaines personnes qui ont un certain passif et je pense pas que ce soit très très facile pour les détenus d'exprimer ce qu'ils ressentent et ce qu'ils désirent.
Ouais. Est-ce que tu as un avis ?
Moi je me dis après cette question c'est est-ce que les hommes et les femmes sont séparés ? Du coup est-ce que ils peuvent se rencontrer ? Est-ce qu'ils peuvent faire des rencontres en ligne ? Parce que ça peut passer par là aussi. Autre chose, s'ils ont une famille, comment ça se passe ? Est-ce qu'ils peuvent avoir une sexualité avec des personnes de l'extérieur ? Et ça, je sais pas. C'est des questions que je me pose, du coup.
Moi, j'ai jamais vu. Vraiment. Peut-être ça existe, mais moi, j'ai jamais vu.
Ok. Vous avez déjà été incarcéré, donc ?
J'ai été, ouais. Ouais. En prison.
Ok. Est-ce que vous pensez qu'il y a un accès... est-ce qu'il y a des endroits où les personnes détenues peuvent s'adonner à la sexualité, justement ?
Là, c'est possible. Hein. S'il n'y a pas l'argent, quelque chose, s'il y a des gens qui, peut-être, profiter de ça... Pour les cigarettes, pour les je sais pas quoi, et peut-être ça peut passer quelque chose. Mais moi, vraiment, j'ai jamais vu. Mais j'ai attendu quelque chose que ça peut arriver aux gens ou tout ça. Mais moi, vraiment, avec mes yeux, j'ai jamais vu. Oui, parce que j'avais pas ma copine. J'étais tout seul ici en France et j'étais aux prisons, voilà. Et je vais pas parler. Mais je sais que ça se passe de temps en temps. Des amis qui sont avec parler ou tout ça. De temps en temps, ça se passe. C'est mieux, oui, c'est mieux. De toute façon, pour les prisonniers, ça a un peu arrangé, je pense.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un accès à la sexualité dans les prisons de France ?
je sais pas trop, mais oui, je pense qu'ils ont des possibilités, certains, de sortir ou d'avoir des temps aménagés pour ça, éventuellement, avec la personne qu'ils souhaitent. Mais pas pour tout le monde, à mon avis.
Moi, je crois qu'il y a, comme les parloirs, je crois qu'il y a des chambres où ils peuvent se rencontrer, enfin, s'ils sont mariés. Mais je sais pas, ils ont 3 heures dans cet espace.
Je pensais que c'était difficile d'accès, mais donc du coup, apparemment, il y a quand même des moyens qui sont mis en place pour permettre les libres relations, en fait. Voilà.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un accès à la pornographie en prison?
J'imagine qu'ils ont Internet.
Je sais même pas s'ils ont Internet. Hein.
Moi, je pense que du coup, je te contredis, mais je pense qu'ils ont accès à Internet, mais c'est peut-être limité. Et puis, de toute façon, ça serait peut-être à la vue de tout le monde. Ça m'étonnerait que ça soit seul.
Qu'est-ce que vous pensez de la mixité en prison? Est-ce que ça devrait être encouragé ou pas du tout?
La mixité, la séparation, du coup, c'est peut-être un moyen de protection aussi pour les filles, où les hommes peuvent être un peu plus violents, du coup. Enfin, moi, si je devais aller en prison, ça me ferait peur de me dire qu'il y aurait des hommes aussi... qui serait quoi?
Moi je pense que ça serait possible à certains moments, par exemple pour le repas, par exemple, à certains moments, mais peut-être pas tout le temps, genre le soir ou. Je sais pas, mais peut-être à certains moments, peut-être pas tout le temps.
Ouais, je suis d'accord, dans tout ce qui est dortoir, douche, enfin que ce soit bien séparé, mais tout ce qui est les sorties, les repas, leur apprentissage et tout ça. Je trouve que ce serait bien plutôt de mettre de la mixité.
Vous parliez de mixité tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de la mixité dans les établissements pénitentiaires français? Est-ce que vous pensez que ça devrait être encouragé ou pas?
Je pense que ça devrait être encouragé parce que le but au final de quelqu'un qui est incarcéré, c'est qu'il soit réinséré dans la vie sociale commune. Et je pense que ça devrait être bien, tu vois, qu'il y ait et des femmes et des hommes dans les prisons. Et voilà, et qu'il y ait des échanges entre eux et que ce soit pas juste les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Parce que je pense que du coup, là, après la réinsertion dans la vie de tous les jours, elle peut être plus compliquée une fois sortie de prison.
Tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais sans que les deux soient complètement mélangés, qu'il y ait des espaces qui soient faits pour pouvoir se rencontrer et au moins échanger, parce que ça peut être bien aussi d'avoir des avis extérieurs que le sien et pouvoir rencontrer d'autres personnes. Et en effet, pour la réinsertion, après, c'est vrai que réarriver dans un monde... Ou par exemple, si on est un homme, il y a des femmes, ça peut être difficile à gérer. Donc ça peut être intéressant d'essayer ça, ou au moins de l'encourager.
Vous pensez, donc dernière question, que la sexualité en prison en France, ça devrait être facilité?
Bien, oui, je pense, parce que ça fait partie de notre vie quotidienne. Et je pense que c'est bien aussi pour l'équilibre mental des détenus. Et je pense aussi que ça pourrait les aider à mieux retrouver une vie normale après la prison. Et ouais, non, je pense que ça devrait être encouragé.
Oui, je suis d'accord. Déjà parce que c'est un droit qu'on a tous à l'extérieur. Donc c'est sûr que si les personnes ressortent, c'est quelque chose à laquelle elles vont avoir accès très rapidement. Et en ayant été privé pendant longtemps, ça peut être compliqué à gérer. Alors que en l'encadrant, ça serait peut-être plus facile et ça permettrait un retour au monde de plus facile.
Oui, je suis d'accord, c'est un droit comme un autre au final. Donc il devrait avoir accès à la sexualité comme n'importe qui.
Je sais pas trop. En fait, ça remet un peu en cause, genre même la fonction ou l'utilité des prisons en soi, parce que. En tout cas, elles sont surchargées, donc soit si tu vas en prison pour un vol, c'est con de te priver du droit, mais quand t'as fait vraiment un grand crime, quoi, un viol, un meurtre, etc., peut-être supprimer le droit. Enfin, je sais pas, c'est un peu complexe, en fait.
Pourquoi ça devrait être plus adapté en fonction de ce qui s'est passé avant?
C'est ouais. Compliqué, en fait, comme question. En fait, ça dépend vraiment de la personne en soi. Est-ce qu'on peut lui retirer un droit alors que c'est une personne qui a fait quand même du mal?
Je pense qu'à mon avis c'est important pour tout le monde, donc je vois pas pourquoi ce serait pas important pour eux, et puis c'est des humains comme n'importe qui, donc oui.
Quand on parle de prison, d'un avis à donner, mais pas forcément beaucoup de connaissances, moi la première, j'ai l'impression que c'est d'autant plus le cas lorsqu'on parle de sexualité. Malgré une libération de la parole, la sexualité resterait un tabou, et c'est d'autant plus le cas au sein des établissements pénitentiaires. En prison, la sexualité n'existe pas, ou plutôt le droit à la sexualité n'existe pas. Dans la majorité des cas, les détenus n'ont pas d'option safe pour s'adonner à une pratique sexuelle. Sexualité solitaire, mais bien souvent devant les autres. Pratique homosexuelle dégradante, voire dangereux car non consentie. Ou négociation avec les gardiens au parloir pour un malheureux moment de liberté interdit. Car oui, c'est tout simplement interdit, à cause de l'atteinte à la pudeur que ça pourrait créer. Il faut donc user de stratagèmes bien souvent humiliants. Rares sont les détenus qui ont accès aux UVF, unités de vie familiale. Ces unités sont des appartements meublés dans l'enceinte pénitentiaire où les personnes détenues peuvent y recevoir un ou plusieurs proches pour une durée comprise entre 6 et 72 heures. Ces unités sont censées donner à l'individu plus d'intimité, mais sont encore trop peu nombreuses dans les établissements français. De plus, pour en bénéficier, il faut justifier d'un lien de parenté ou d'alliance juridiquement établie avec la personne qui vient nous rendre visite, ou bien d'un projet commun avec elle. Une possibilité d'échange donc, mais encore une fois peu accessible. Dans ce micro-trottoir, plus que l'idée de pure pratique sexuelle, ressortent les questions d'affect, d'intimité, de dignité. Ne pas pouvoir embrasser et câliner les personnes que l'on aime paraît inconcevable. C'est pourtant ce que vivent la majorité des détenus en France aujourd'hui. Certains diront que les détenus n'ont pas enfreint la loi. L'idée est pourtant que les personnes incarcérées se réintègrent à la société après avoir purgé leur peine. Comment cela est-il possible si on les déshumanise et qu'on les prive de besoins essentiels et de droits fondamentaux ? L'IPPF, la Fédération internationale pour la planification familiale, encadre pourtant ces droits. Droit au respect de la vie privée, droit d'exercer le contrôle de sa sexualité dans le respect des lois, droit à la sécurité et à son intégrité corporelle, par exemple. Pour finir, l'IPPF reconnaît la sexualité comme faisant partie intégrante de l'être humain et de son bien-être mental. Pourquoi donc cela n'est-il pas respecté à l'intérieur des prisons ?
Je me balance, je m'offre à tous les vents sans réticence. Moi, je me balance, je m'offre à qui je prends le cœur indifférent. Venez, venez vite, je veux tout, mais tout de suite, entrez dans ma danse. Moi, je me balance, dégrafez les cols blancs de vos consciences. Je m'en balance, mon lit est assez grand pour des milliers d'amants. Moi, je me balance au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je me balance, chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite, c'est moi qui vous quitte. Sortez de ma danse. Je me balance parmi tous vos désirs, vos médisances. Moi, je m'en balance sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Car je m'en balance, je me balance. Au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je me balance. Chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite. C'est moi qui vous quitte. Sortez de ma danse. Moi, je me balance. Parmi tous vos désirs, vos médisances. Moi, je m'en balance. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Car je m'en balance, je me balance, je m'en balance, je me balance.
Midi au mitard sur Prune 92 FM.
Des prisons et des hommes.
Moi, je me balance de Barbara, musique que vous pourrez retrouver dans la BO de l'excellent film de Nelly Kaplan, La fiancée du pirate, sorti en 69. Vous écoutez toujours Midi au Mitard sur Prune et j'en profite pour vous faire part de notre découverte d'une nouvelle émission radio. Elle s'appelle Carapatage et ça s'écoute sur Radio Libertaire, sur tous les premiers et troisième mercredi du mois de 20h30 à 22h30. Un programme qui traite de la répression et le contrôle à travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire en racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur.
Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire. En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur. En échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h. Sur Radio Libertaire, 89.4 FM. Carapatage contre toutes les cages.
Carapatage, donc une émission à retrouver en podcast sur leur site carapatage.noblog.org ou sur Radio Libertaire. En attendant, sur Midi au Mitard, on parle sexualité en détention et Manon vous propose une chronique placée sous l'angle sociologique. On t'écoute, Manon.
Alors oui, aujourd'hui on va parler de sexualité en prison de femmes. Enfin, c'est un livre écrit par la sociologue Myriam Joël il y a un peu plus de 3 ans. Donc personnellement, moi j'ai découvert son travail grâce à une conférence organisée par l'OIP pendant le dernier confinement. Et il faut dire qu'il y a assez peu de travaux sur le sujet. La sexualité en détention féminine est particulièrement peu étudiée. Alors pour moi, c'est un ouvrage qui est important parce qu'il parle de femmes particulièrement invisibilisées et d'un sujet dont on ne parle pas assez. Le sexe a quelque chose de mystérieux car il peut provoquer à la fois des sentiments de répulsion et d'attraction. On peut d'ailleurs faire le parallèle avec la prison qui suscite à la fois des réactions d'aversion et de fascination. La sexualité des femmes en détention, c'est un sujet dont on parle peu, qui peut être perçu comme polémique, controversé. Et c'est le sujet qu'a choisi d'étudier Myriam Joël au sein de plusieurs maisons d'arrêt et un centre de détention. Pour son étude, elle a interrogé 80 détenus et 70 surveillants-surveillantes, professionnels de santé et intervenants et intervenantes extérieures. Quelque chose d'important à préciser, c'est le fait que la sociologue se détache de toute approche militante. Elle le rappelle d'ailleurs pas mal de fois dans son ouvrage, mais notre émission militante, Midi au Mitard, parce que son livre est très éclairant. On va commencer par expliquer comment en prison, la sexualité est clandestine et confinée dans le secret. Déjà, il y a la question du parloir qui est fondamentale. Comme l'a dit Laurie en début d'émission, il y a un seul article sur le sujet du sexe en détention dans le code de procédure pénale. Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait pour une personne détenue d'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur. Donc on a un article qui ne contient pas le mot sexe, mais qui contient le mot péjoratif obscène. Donc avoir un rapport sexuel au parloir, ça dépend de plein de choses. Est-ce que c'est un parloir individuel ou un parloir collectif ? Comment est configurée la pièce ? Où sont les surveillants ? Enfin, où sont les surveillantes pour la détention de femmes ? Quels sont les moments propices ? Quelle tenue porter éventuellement si on veut rester discret ? Il y a une énorme zone d'incertitude dont parle Myriam Joël. En fait, il s'agit d'un calcul coût-bénéfice à chaque visite, entouré par la crainte d'être vue, la crainte d'être prise, l'angoisse de la sanction. Et ça, ce sont des choses qui peuvent bien sûr entraver le plaisir sexuel. Alors ces situations sont évidemment vécues différemment selon la personne, selon son parcours, la façon dont elle vit la détention, son entourage et plein d'autres choses. Certaines choisissent de s'en abstenir totalement, car l'idée du plaisir en détention est exclue pour elles ou car elles estiment qu'elles ont trop à perdre. Ensuite, vous le savez peut-être, les femmes représentent moins de 4% de la population carcérale en France. On pourrait donc considérer les quartiers femmes comme un greffon de la prison, en grande majorité masculine. En détention, les hommes et les femmes n'ont pas le droit de se côtoyer en France, sauf à quelques rares exceptions. Et ce que Myriam Joël montre dans son livre, c'est qu'il existe une angoisse de la proximité physique entre femmes et hommes détenus. Elle nous dit que l'histoire des femmes qu'elle a interrogées était souvent, voire majoritairement, marquée par la brutalité des rapports sociaux de sexe, par la violence au sein de la famille, avant leur entrée en prison. Il y a un grand nombre de ces femmes qui ont exprimé une méfiance face au fait de côtoyer les hommes au sein de la détention. Il faut savoir qu'au Danemark, par exemple, il y a quelques prisons mixtes. Et ce sont des choses qui ne sont pas forcément bien accueillies par les femmes rencontrées par Myriam Joël, notamment parce que la reproduction des violences de genre au sein de la détention se pose. Donc, le deuxième pilier de l'étude de la sociologue, c'est le fait que la sexualité soit invisible en détention. La sexualité, c'est considéré comme une affaire personnelle. En parler, c'est déjà un acte transgressif. Le courrier permet d'exprimer l'intime, même s'il est parfois sujet à la censure. C'est quelque chose de précieux pour les échanges avec l'extérieur, et j'en suis convaincue en tant que bénévole au courrier de Beauvais. Claude, une femme interrogée par Myriam Joël, dit, en parlant de sa relation avec son mari, « En 8 mois, on s'est dit ce qu'on s'était pas dit en 28 ans. » Ces échanges peuvent faire complètement évoluer les rapports conjugaux. Ça peut être l'occasion pour certaines femmes d'exprimer des choses qui sont difficiles à dire à l'oral ou en face. Ce qu'on remarque en revanche, c'est la déconnexion totale de certains conjoints à la réalité des femmes détenues. L'incarcération touche énormément les proches des détenus, mais le témoignage de Frédéric, 27 ans, mari d'une femme incarcérée, est assez glaçant, car vraiment très déconnecté. Je vous le lis. La première fois qu'elle a été incarcérée, je me suis dit « Pourquoi on a fait un bébé ?» Même maintenant, ça m'arrive de me le dire encore, mais 5 minutes. Prendre le rôle du père et de la mère en même temps, je suis un peu perdue. C'est pour ça aussi que je peux comprendre pourquoi beaucoup d'hommes lâchent l'affaire. L'instinct maternel et paternel, c'est pas du tout pareil. J'aimerais mieux être à sa place, tu vois.
Cicatrice au plexus, blessure anti-matrice. Quand je maîtrise plus, me rappelle qui je suis, un putain de macactrice.
Au-delà du courrier, qui se limite à des rapports écrits, il y a bien sûr les UVF, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Des UVF auxquels ont le droit certaines détenues une fois par trimestre, de 6 à 48 heures, et une fois par an pour 72 heures. Ce sont des dispositifs qui sont difficiles d'accès, voire impossibles pour les courtes peines, alors que c'est plutôt en début de peine justement que les liens se délitent. Il faut savoir que plus d'une union sur 10 est rompue pendant le premier mois qui suit l'incarcération. Ce sont des chiffres de 2002, mais qui nous éclairent quand même sur la question. En revanche, la sexualité n'a jamais été abordée dans tous les travaux qui ont servi à définir ce qu'est un UVF. Ce sur quoi on se concentre, c'est vraiment le maintien des liens familiaux. On valorise la conjugalité, ce qui renforce l'injonction sociale qui pèse sur les femmes de la pratique sexuelle à travers la vie conjugale. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve au-delà des UVF et des permissions. Myriam Joël nous dit « Ce sont bien les liens familiaux des personnes détenues qui sont privilégiés dans l'optique de la réinsertion, l'activité sexuelle apparaissant de fait comme un résidu. Cela peut bien entendu couper le désir, à force d'injonction. » Et l'impact de moments forts qui peuvent survenir en détention, comme le procès, le deuil, la maladie, la séparation ou bien les transferts, ont eux aussi une influence sur le désir. Certaines appréhendent de retrouver une vie sexuelle hors les murs. Elles ont peur de souffrir, peur de ne plus savoir comment faire ou peur de ne plus avoir envie. Construire une nouvelle relation en détention, c'est possible de plusieurs façons, même si c'est compliqué. En permission, par exemple, ou via des petites annonces avec une personne de l'extérieur. Pour certaines femmes rencontrées par Myriam Joël, ça a été un ami, par exemple, qui venait leur rendre visite au parloir. Une relation dans laquelle le poids du soutien est important, mais avec qui la méfiance reste de mise, si ces femmes ont connu des violences dans leurs histoires passées. Comme vous vous en doutez, il est difficile d'obtenir un UVF avec une personne rencontrée pendant la peine. Donc ce sont des difficultés supplémentaires. Une relation avec un autre homme détenu, également, peut être envisagée par le biais de la correspondance. Ce type de relation, ça permet une grande fréquence d'échange, une absence de jugement quant à la situation d'incarcération, mais c'est aussi le risque de s'apercevoir que cette personne entretient une multitude de correspondances et éventuellement d'être déçue ou que tout s'arrête du jour au lendemain en cas de transfert ou de sortie. Bien sûr, il est aussi possible de tisser une relation avec une autre femme détenue, une activité sexuelle qui reste confinée dans l'espace privé, selon Myriam Joël, et encadrée par des manœuvres d'invisibilisation. Qui sont renforcés bien sûr par la présence des agents de l'administration pénitentiaire, par des stéréotypes sur l'homosexualité qui persistent, selon la sociologue, et par la nature même du couple, qui doit être confiné dans l'intime. Donc Myriam Joël, ici, elle entre assez en contradiction avec Gwenola Ricordo sur cet aspect, qui soutient que l'homosexualité est largement acceptée en détention de femmes. Il y a aussi avoir des rapports en cellule. C'est compliqué, car l'administration continue son contrôle des corps dans les espaces privés, notamment grâce à l'œilleton. Alors il faut s'adapter. Cathy, détenue de 42 ans, que Myriam Joël a interrogée, dit à ce sujet « C'est tout un art ». Le troisième grand pilier du livre de Myriam Joël, c'est l'étude d'une sexualité dite « ostensible ». En prison. La sociologue nous parle d'une neutralisation de la charge symbolique de la sexualité grâce à l'humour. De l'humour de la part des surveillantes, des gradés et bien sûr des détenus. Au-delà de l'humour, ces échanges semblent encadrés par des règles. Les jeunes détenus sont plus enclins à y participer et certains sujets restent tabous, comme la masturbation clitoridienne. Les relations homosexuelles tendent à être invisibilisées et leur pratique publique est rejetée par certaines, comme on l'a expliqué un petit peu plus tôt. Il faut savoir qu'en quartier femmes, on a 100% des surveillantes qui sont des femmes, mais ce que cela diffère sur les postes de direction. On remarque d'ailleurs qu'au sein des agentes de l'administration pénitentiaire, le mythe de la détenue séductrice reste très ancré, ainsi que celui d'un désir incontrôlable de l'homme surveillance qui justifie, selon elle, en partie la non-présence des hommes au sein des QF. Les détenus, de leur côté, refusent en majorité l'idée d'avoir des surveillants masculins. Ça représenterait une intrusion dans l'entre-soi féminin et serait susceptible de réveiller des souvenirs d'expériences traumatisantes pour certaines femmes. Véronique, détenue de 49 ans, dont les témoignages apparaissent à de nombreuses reprises dans le livre de Myriam Joël, nous dit « Chez les femmes, une grande majorité de mecs, même inconsciemment, ils reprennent le pouvoir. Dans les bureaux, par exemple, ils tapent du poing sur la table. Les femmes, elles sont déjà dominées. Elles s'écrasent. » Lorsqu'elles sont en contact avec les hommes, des intervenants extérieurs notamment, certaines peuvent adopter des comportements sexualisés très directs, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec de la séduction. Il s'agit plutôt de signifier aux hommes leur position de faiblesse au sein de la détention féminine. Une dernière chose assez effarante, il existe une réglementation sur les vêtements en prison de femmes. Les jupes, les robes et les shorts au-dessus du genou sont interdits. Un règlement assez nauséabond à mon sens, qui semble jugé comme insuffisant par certaines surveillantes. Une preuve supplémentaire du contrôle des corps par l'administration pénitentiaire. Donc après avoir démontré que la sexualité en détention était à la fois clandestine, invisible et ostensible, Myriam Joël nous parle d'une sexualité rationalisée. Donc je vais citer Colline Cardy, qui est une autre sociologue française dont on a déjà parlé dans Midi au Mitard lors de l'émission sur les femmes. Pour elle, en prison, se rejoue l'assignation des femmes à une identité féminine traditionnelle, attachée au corps et à l'apparence. En détention féminine, il est mal vu de trop mettre ses attributs en valeur, donc je mets ça entre gros guillemets. Il est mal vu de trop se délaisser, et c'est pour cette raison notamment que les ateliers socio-esthétiques ont été montés. Il y a une vraie injonction à se maintenir et à ne pas se laisser aller. La maternité également, qui est un sujet très important de cet ouvrage, peut être considérée comme un ressort de pouvoir. La relation avec l'enfant étant considérée comme impérissable, versus une relation conjugale qui peut être perçue comme éphémère. La sociologue nous parle d'actrice agissante et en position de force d'une situation renvoyant pourtant à une assignation sociale. Ce qu'elle y voit, c'est donc la possibilité d'être à la fois dominante et dominée dans la maternité. Une maternité qui est qualifiée de statut suprême et qui peut entrer en concurrence avec la sexualité. Et Myriam Joël nous dit d'ailleurs, pour décrire ses entretiens, « J'ai parfois eu l'impression que c'est seulement après s'être déchargée de leur discours sur la maternité qu'elles s'autorisaient à s'exprimer sur les sujets d'ordre sexuel. » Lorsque le devoir maternel est privilégié par rapport à la satisfaction des besoins sexuels, ça peut avoir un effet inhibiteur et culpabilisateur, et c'est un phénomène qui est très très renforcé par le regard de la paix sur ce sujet. Concernant la prévention des risques, il faut savoir que les arrivantes se voient proposer un test VIH, hépatite B et C, et que cette étape peut être vécue comme brutale, venant s'ajouter au choc de l'incarcération. Et pour certaines détenues, c'est vécu comme une forme d'emprise institutionnelle sur leur corps. Les professionnels de santé avec qui Myriam Joël s'est entretenue semblent promouvoir un modèle de sexualité féminine autour de l'autonomie, de la responsabilité, de la protection. Mais les discours autour du désir et du plaisir sont peu nombreux et c'est à déplorer. Donc la conclusion de cet ouvrage, c'est que la prison de femmes apparaît comme un puissant relais du modèle légitime de sexualité féminine. Cette sexualité, selon Myriam Joël, elle est définissable comme inscrite dans le modèle du couple monogame et exclusif. Elle doit être consentie, réciproque et égalitaire. Elle est invisibilisée et intimisée. Elle est rationalisée via des conduites responsables et autocontrôlées. Et elle occupe une place secondaire par rapport aux pratiques de care à destination des enfants. Elle conclut son ouvrage en ouvrant trois axes de réflexion qui sont tous fondés sur des injonctions contradictoires. Premièrement, en détention de femmes, on est sur un renforcement et une remise en question des modèles traditionnels. Les rôles domestiques sont valorisés, c'est donc être une bonne mère, être une bonne épouse, mais on incite fortement à l'autonomie et à l'indépendance. La sexualité dépendant d'une relation conjugale est montrée comme le modèle à suivre, mais il y a une vraie injonction à s'autonomiser et être responsable vis-à-vis du conjoint. Les détenus sont incités à canaliser la pulsion sexuelle des hommes, mais l'accent est mis sur la réciprocité, le consentement et la promotion d'une sexualité égalitaire. Donc toutes ces injonctions peuvent constituer pour les détenus, je cite, une insupportable remise en cause de leur identité et laisser de côté finalement la vraie question du désir. Ensuite, en détention de femmes, il semble se produire une importation et une exportation des normes. L'activité sexuelle y est invisibilisée, car elle appartient à la sphère de l'intime. Et si cette norme est transgressée, alors il y aura répression, il y aura sanction. On insiste bien sur la notion de consentement éclairé, mais cela donne aussi lieu à une présence surplombante des professionnels de la paix, plus intrusive que chez les hommes sur ce sujet. C'est un sujet également que je n'ai pas abordé dans ma chronique, ce sont les femmes qui sont incarcérées pour agression sexuelle sur mineurs. Cela constitue un interdit social suprême, car l'enfant a un statut absolument incompatible avec la participation à quelconque activité sexuelle. Il y a une forte exclusion de ces femmes enfermées pour ces motifs en détention féminine, comme cela se passe en quartier homme, mais de façon différente. Et ça prouve vraiment l'importation de cette norme à l'intérieur de la prison. Pour finir, en détention se rencontrent des processus de discipline et d'autocontrôle à la fois. Le corps y est surveillé au moyen de règles et de normes établies par la paix. Le contrôle de la sexualité au parloir, l'invisibilisation des couples homosexuels, l'absence de contact avec les hommes ou l'interdiction de certaines tenues. Et ça donne lieu à un autocontrôle très fort en miroir. Pour Myriam Joël, la prison, c'est un laboratoire privilégié d'analyse du social. Les injonctions normatives à destination des femmes y sont décuplées, elles y sont exacerbées. Le sexuel renvoie à du non-sexuel, comme les rapports sociaux de sexe, la génération, la culture, la maternité, la division publique-privée de l'espace. Et le non-sexuel aussi renvoie à du sexuel, l'addiction, l'entre-soi féminin et bien d'autres choses. La sexualité en prison, donc, permet de porter en retour un regard différent sur la sexualité dans ce qu'on appelle le monde libre.
Merci beaucoup Manon pour cette réflexion et ces analyses à propos de la sexualité en détention. Et avant de continuer sur ce même thème, je vous propose de faire une petite pause musicale.
La cárcel es otra trinchera, seguiré aportando, no me veréis derrotado fascistas, dar que miles y miles resistan, seguiré revolucionario, apoyando a revolucionarios, lo que digo lo piensan muchos en los barrios, las injusticias tienen unos culpables criminales, y siempre voy a señalarles, es por nuestros derechos, nuestras libertades. Irán a por más y no los paramos, forrados con sangre inocente en las manos. Quieren esposar la nuestra que escribe, o reta mi libreta libre, la conciencia es mi líder. Firme, si teméis que el pueblo piense, no voy a rendirme, os ahorro el suspense. Coraje no falta, la razón está a mi lado, con el puño cerrado y la cabeza alta. Es su venganza por golpearme tanto y no verme doblegado, si sin tregua los ataco. Si lo que hago empujo a miles a luchar, sin democracia como Juan Carlos tragando caviar. Contando con tu apoyo porque sabes que es un ataque contra nuestras libertades. Cabeza de turco pa' callar al resto contra lo injusto impuesto. No me asusto, protesto, sin darles el gusto, el manifiesto no rebajo. Y contra la tiranía del rico dedico trabajo. Resistir es bello, aun con el agua al cuello. Si no retrocedemos, pierden ellos. Hipócritas encarcelan por usar la palabra. Luego llaman violencia a que la calle arda. Y llenan de terror todo el globo terrestre. La policía que me secuestre, ir armada. Fachas con total libertad lo celebran, pero el mensaje se expande, la tienen negra. Va a adelantar el fin de su estado putrefacto. La República Popular ya devolverá el impacto. Me parto, si creen que así me derrotan. Ya quisiera la dignidad de esta boca. Apoyarán a quien los explota y saquea. Yo jamás voy a pintar como champán la diarrea. Esto literalmente me salvó la vida. No vendrá su muerte a dictarme lo que escriba. Si golpean fuerte no me verán blando. Que esto despierte y no salgan ganando. Llevé a la práctica lo que rapeo. Mi rabia apática no será su trofeo. Luchar es un honor a que no renunciaré. Si abrimos los ojos nos ciega nuestra fe. Gritemos por los silenciados, por los que mataron. Por eso empecé y aún lo tengo más claro. No hace falta que pienses igual que yo para ver el grave atropello que se cometió. Te han condenado por contar realidades ocultas, probadas como negocios criminales que los lucran. Fomentan racismo, machismo, homofobia. Luego prohíben al que todo eso odia. El régimen es un abusón crecido, necesita hostias que lo dejen menos tranquilo. No pienso callarme porque al callarme pienso, con arsenales de argumentos no me siento indefenso. La voz no se encierra, idiotas, ¿qué queréis? Esto no es otra guerra con la que se forra el rey. No aceptes que sea legal que nos saquen millones e ilegalicen hasta llamarlos ladrones. Este himno es por quienes estáis conmigo y salís a las calles sin ser pueblo dormido, porque han jodido al colectivo, no solo a mí. Con individualismo no podremos salir. Mare, aunque se nos separe a la fuerza, que el dolor sea rabia y jamás nos venzan. Someternos con miedo su plan, pero si salgo más fuerte no ganarán. Escucha bien, estado criminal, con miedo a todos jamás nos callarás. No estamos solos, cada día somos más. Me haces pagar un precio muy caro, pero también lo pagarás dando volumen al mensaje que temes y quieres silenciado, creando conciencia que se transformará en lucha organizada, adelantando el fin de vuestra dominación que nos desangra. Entonces añoraréis que usemos la palabra que ni permitís. La sangre azul teñirá el cielo gris. En prisión la dignidad siempre será mi vis a vis. No vais a doblegarme escoria, tampoco al pueblo que en la calle os odia. Estás nervioso porque tiene los años contados y lo sabes. Como sea y donde sea, ante ataques tan graves, defenderemos nuestras libertades.
Midi au Métard, l'émission qui écarte les barreaux.
Sur Prune 92 FM et sur le www.prune.net.
Vous venez d'entendre le rappeur espagnol Pablo Hazel et son titre Nuestras Libertades. Si vous ne le connaissez pas, cet artiste est un véritable symbole de la liberté d'expression dans son pays. Il est notamment connu pour ses tweets écrits à l'encontre de la police et de la monarchie espagnole. Il vient d'ailleurs d'être réincarcéré suite à des accusations d'apologie du terrorisme après s'être retranché à l'université de Lérida. Son arrestation a déclenché une vague de manifestations de soutien. Après cet interlude musical, c'est au tour de Mathieu et sa chronique cinéma. Et cette fois-ci, on se penche sur un documentaire.
Un documentaire qui s'appelle « À côté » de la réalisatrice Stéphane Mercurio en 2008. Alors j'ai longtemps hésité à choisir ce film parce qu'il ne parle pas de sexualité à proprement parler. On s'est d'ailleurs interrogé avec l'équipe de Midi au Mitard sur le fait d'ouvrir le thème de l'émission aux relations amoureuses en général. Et on s'est dit qu'après tout, ces thèmes s'entremêlent et se croisent. Alors du coup, on va se pencher un peu sur ce film qui nous parle d'amour entre familles, entre amis, entre conjoints et conjointes. Mais un amour qui est vécu par le prisme de la prison. Donc à côté, c'est un film qui nous offre des moments d'intimité avec des femmes et des hommes séparés de la personne qui elles aiment par les murs de la prison. Certaines et certains attendent depuis plusieurs années, d'autres depuis quelques mois, mais on ressent chez tout le monde un besoin de soutenir et d'être soutenu. Ça nous fait découvrir plein de situations, d'émotions, et une des choses qui m'a le plus marqué, c'est l'effet cathartique de la séparation par la prison. Les familles et les amants et amantes partagent un lien dans leurs humeurs et leurs émotions. Il y a un père de famille qui confie un moment à la caméra « S'il est bien, on repart bien ». Et l'inverse est bien sûr vrai. On voit que la prison parvient à détruire, même en dehors de ses murs. Pire encore, la prison, elle parvient à se dédoubler, à se métamorphoser, pour renfermer à la fois les individus incarcérés, mais également leurs conjoints ou conjointes. Quand on écoute, par exemple, ces femmes qui nous expliquent qu'elles doivent se charger de tout, des enfants, du logement, des finances, mais qu'elles doivent également prendre soin de leurs conjoints en prison, ça nous rappelle que cette charge mentale et physique est immense et destructrice. Tout ça fait écho au témoignage de l'homme dans la chronique de Manon, qui parle de cette charge mentale d'assumer paternalité et maternité. Sauf que cette charge mentale tombe encore et toujours quasiment exclusivement sur les femmes quand il s'agit de prison. On rappelle que les femmes représentent 4% de la population incarcérée en France. Tout ça nous fait nous interroger sur la faculté de l'incarcération, mais également de la société tout entière à nous enfermer dans des schémas aliénants. Ce film nous montre avec tristesse et colère des dysfonctionnements du milieu carcéral et de la prise en charge des individus et des vies bouleversées par l'emprisonnement. Finalement, emprisonner quelqu'un, c'est emprisonner ses proches, ses amours, comme s'ils devaient eux aussi en payer la dette pour avoir entretenu un lien avec un homme ou une femme qui a enfreint les règles. Tout ça m'a amené à la conclusion que les murs d'une prison sont des murs poreux. Ils laissent passer beaucoup de choses et ne peuvent pas arrêter l'amour entre les individus. Mais cette porosité est double, et la détresse et la tristesse s'échappent des murs également. On parle généralement de peine de prison, et les films comme À côté nous permettent de constater à quel point ce terme est juste, et que la peine est partagée, dans tous les sens du terme, par ceux et celles qu'on aime. Je vous recommande donc ce visionnage. On trouve ce film documentaire en VOD sur le site du CNC. Et je vous laisse avec la bande-annonce. À la prochaine chronique.
Vous savez où il est dans la prison ?
Non.
Vous la regardez, là ?
Bah ouais, parce que je sais pas, je l'imagine derrière, en fait. Hein. Mais je sais pas où est-ce qu'il est. Puis elle a l'air grande.
Encore plus dur pour nous. Parce que nous, on gère tout dehors. On gère les papiers, on gère les gosses, on gère tout. Et qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils restent dans leur cellule. Bon, ils réfléchissent à leurs conneries, ça c'est sûr.
C'est ça, on sait, de toute façon, on sait qu'on a affaire à des murs. Hein. Les murs, voilà, c'est... Ils sont là, mais ils sont vraiment là, quoi. Il n'y a pas de... En 67, on est en 2006, donc bon, ça fait 39 ans, et 31 ans de parloir dans ces 39 ans, quoi. Parce que c'est comme ça, c'est sa vie, et puis sa vie c'est celle-là, la mienne c'est à côté.
Voilà, veuillez patienter, oui, je me trouve patiente, oui. Bon. J'ai pas dit que c'est que j'en avais marre de venir. Tiens, te voir toi. J'en ai marre de la prison, non, voilà, c'est tout.
Merci beaucoup Mathieu pour ton retour sur le documentaire donc À côté, que l'on vous conseille vivement de visionner si le sujet vous intéresse. Et tout de suite, comment l'absence de l'autre sexe impacte la perception du genre et de la sexualité en prison ? Ce sont les questions que souhaite aborder Ariane dans sa chronique. On écoute ça tout de suite.
On prive. Elle prive de liberté, mais aussi de sexualité. Pourtant, la sexualité en prison n'est pas complètement inexistante. Elle est certes limitée, mais elle peut s'exercer entre détenus. Je me suis demandé comment l'absence de l'autre sexe en prison impacte la perception de la sexualité et du genre chez les détenus. Déjà, il faut noter que les discours sur le sexe et la sexualité permettant de faire face à l'absence de l'autre ne sont pas les mêmes chez les hommes ou chez les femmes. Les femmes ont tendance à davantage personnifier l'autre genre en y mettant de l'affection, tandis que les hommes incarcérés voient plus la femme en tant qu'objet de désir. C'est la femme. Qui se réduit souvent à un détail anatomique, un cul, une chatte. Ainsi, les calendriers, photos et divers supports à la pornographie sont bien plus visibilisés dans les cellules masculines que dans les cellules féminines. Cette différence de discours s'explique par une construction sociale différente, donnant lieu à des perceptions de la sexualité et de l'autre qui ne sont pas les mêmes pour les femmes ou pour les hommes. La femme sert d'intermédiaire au discours sexuel et à la masturbation, qui font office de pratiques sexuelles face à l'absence de partenaire. Cette masturbation est comme hors de la prison, un tabou pour les deux sexes. La sexualité normée se construit autour de la présence de l'homme, de la pénétration, de l'appropriation de la femme. Ainsi, l'impossibilité d'avoir une relation avec une femme prive l'homme de son droit à la virilité. La prison renforce, valorise les codes de la virilité. Ainsi, la virilité est centrale en prison chez les hommes. Elle permet d'affirmer leur identité par une position de pouvoir afin d'affronter l'expérience carcérale. Par conséquent, des hommes homosexuels, travestis, transsexuels ne respectent pas les frontières rigides du genre, selon le sociologue Welser Lang. Malgré un hétérosexisme très fort en prison, c'est-à-dire une prédominance des normes hétérosexuelles, pour reprendre l'expression de Gwenallari Cordo que nous avons plusieurs fois entendue au cours de Midi au Mitard, L'homosexualité est existante, car elle permet de pallier l'impossibilité de relations hétérosexuelles. Il faut noter que les détenus qui ont un rapport sexuel avec un partenaire du même sexe ne se disent pas tous homosexuels. Et certains vont le cacher derrière une posture de pouvoir, afin d'éviter que ne soit engagée leur virilité, et donc leur honneur. Chez les femmes, l'homosexualité serait beaucoup moins présente que chez les hommes. La sexualité entre femmes ne pourrait être une sexualité complète, puisque l'homme est absent, selon des préjugés ancrés. De véritables relations sexuelles ne pourraient se faire sans pénis. Ainsi, une jouissance uniquement entre femmes est socialement impensable, selon Anne Revillard, professeure de sociologie. D'ailleurs, vous pouvez lire les travaux de la sociologue Françoise Guillemot, qui a travaillé sur l'invisibilisation de la sexualité entre femmes, que la lesbophobie, une hostilité à l'égard des lesbiennes, permet de représenter. L'homosexualité est vue généralement comme une déviance, puisque ce sont les normes hétérosexuelles qui sont dominantes et constituent un instrument de manifestation du pouvoir masculin. En prison, chez les hommes, se pose ainsi la nécessité de construire une identité virile, dominante, permettant d'être dans une position de sécurité, afin d'éviter toute stigmatisation et agression qu'une identité de faiblesse et de soumission impliquerait. Cette position de faiblesse dans notre société est symbolisée par la femme, ou l'équivalent symbolique, l'homosexuel. L'identité masculine tend donc à s'uniformiser. La prison montre ici son visage normatif quant à la perception des genres et des rapports sociaux de sexe à l'intérieur du groupe des hommes. Cette citation est tirée de « Sexualité et violence en prison », écrit par les sociologues Daniel Welser-Lang, Lilian Mathieu et Michael Faure, et qui m'a servi de support principal à cette chronique. Une autre citation tirée de ce livre va me permettre de conclure cette chronique. La prison est un lieu de consolidation, de production et de reproduction de l'ordre masculin. Et oui, les différences de construction de la sexualité et de perception des rapports hommes-femmes sont perpétuées au sein de la prison, qui ne constitue pas une rupture vis-à-vis du monde social.
Philosophie, actualité, témoignages, interviews et reportages, Midi au Mitard ouvre les portes et casse les murs pour laisser passer la lumière sur les prisons.
Et c'est déjà la fin de cette émission sur la sexualité en détention. Merci à toute l'équipe de Midi au Mitard d'y avoir contribué, c'est-à-dire Ariane, Clémentine, Manon, ainsi que Adèle et Mathieu. Et si le sujet vous a interpellé, n'hésitez pas à aller voir plus loin en feuilletant la revue « Dedans dehors » de l'OIP qui y est consacrée, ou encore le magazine Citadelle réalisé à la prison des femmes de Rennes. Pour nous suivre et réécouter cette émission, rendez-vous sur notre page Facebook Midi au Mitard ou sur le www.prune.net. Et on vous laisse sur Beautiful Boys de Coco Rosie avant la prochaine émission qui aura lieu le 4 avril. On vous souhaite un beau dimanche sur les ondes de Prune.
His love story had begun. Thirty years he spent wandering, a devil's shadow with a wings of he went to prison. In every country he suffered in. Oh, how he loved prison. How lovely he loved he was. Prison.
queens and criminal queers, all those beautiful boys, tattoos of ships and tattoos of tears.
His greatest love was executed. The pure romance was undisputed. Angelic hoodlums and holy ones. Angelic hoodlums and holy ones.
All those beautiful boys, pimps and queens and criminals. Tattoos of ships and tattoos of tears. All those beautiful boys, pimps and queens and criminal queers. All those beautiful boys, tattoos of ships and tattoos of tears. Beautiful.